avant de vous lire le passage dans 2 Corinthiens chapitre 6, le père de mon père spirituel, qui était un évangéliste dans le 1-1, lui, il s'en va visiter un malade, un frère malade dans un grand hôpital dans la région de Montréal. Et j'ai déjà raconté ou pas? Parce qu'en haut de 60 ans, ça arrive qu'on radote, hein, donc je ne vais pas le raconter 3-4 fois. Et alors, il se promène dans les grands passages des hôpitaux, et puis là, il y a une porte ouverte, et il entend quelqu'un qui sanglote, mais qui sanglote vraiment suffisamment fort pour qu'il l'entende dans le passage, quoi. Et là, il se tourne et il voit un vieillard qui est à son fauteuil roulant, puis il y a la porte de chambre qui est là, puis il est avec son fauteuil roulant, puis il est contre le mur extérieur de sa chambre, puis il pleure. Alors lui, il regarde dans le passage, il voit pas d'infirmière, et alors il se permet d'entrer dans la chambre, il va voir le monsieur, il dit, excusez-moi, est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous voulez que j'appelle une infirmière? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et vous savez ce que le monsieur lui dit? Il dit, j'ai 98 ans, je m'aperçois qu'il me reste pas beaucoup de jours à vivre, et je ne sais pas où je vais passer l'éternité. Il faut le faire, hein? 98 ans, quoi. Ouais. Ah, ben, il dit, monsieur, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez, vous allez le savoir, je vais vous montrer le chemin, quoi. Et il a témoigné du Seigneur Jésus. 2 semaines après, ce vieillard de 98 ans, eh bien, il décédait, quoi. Ça, c'est une grâce du Seigneur, hein? Avoir vécu 98 ans sans Dieu. D'avoir rien à cirer avec le Seigneur, et le Seigneur qui entend la prière de ce vieillard, quoi. Il pleurait peut-être depuis le matin. Seigneur, je sais pas, hein? Je vais mourir, je sais même pas où je m'en vais. Je commence à réfléchir à mon éternité, j'ai 98 ans, quoi. Ouais. Hey, les gens ont besoin du Seigneur. Les gens ont besoin du Seigneur. Ah! Vous dites amen à ça? Ah! Ils ont besoin autant du Seigneur que moi j'en ai besoin, que vous en avez besoin, frères et sœurs. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 6, ce matin. Bon, on peut commencer au verset 1. Hein? Ou on va juste lire les 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu en vain, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu en vain? C'est de ne rien faire après avoir accepté ce cadeau extraordinaire de Jésus-Christ, c'est de ne rien faire avec ce cadeau qu'on a reçu de Dieu, quoi. Ouais, c'est de le garder pour nous, quoi. Et il continue ici. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Vous êtes amen à ça? Encore aujourd'hui, c'est le jour du salut, frères et sœurs. Encore aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 25 personnes dans l'Église qui prient pour un réveil depuis plusieurs semaines. Et vous savez que ces 25 personnes-là, elles ont eu l'humilité de commencer à prier d'abord pour que Dieu les réveille, ensuite qu'ils réveillent l'Église, et après qu'ils réveillent, qu'ils fassent un réveil dans le monde. Il y a 25 personnes et plus le mercredi soir qui, dans leur cœur, prient pour que Dieu fasse un réveil dans leur vie. Moi, je suis touché par ça, parce que je vois des vies qui sont transformées depuis le début de l'année, quoi. Dieu bouleverse, Dieu transforme, Dieu change des vies le mercredi soir, quoi, parce que les gens viennent dans le but, non pas d'acquérir une connaissance qui va leur gonfler la tête comme un bloc de ciment, mais qui va faire grossir leur cœur et qu'ils puissent vraiment recevoir cette compassion, la compassion qu'ils ont reçue du Seigneur, qu'ils puissent la distribuer vers les autres, quoi. Ce que j'ai reçu, je veux pas l'avoir reçu en vain, je veux le distribuer, je veux le donner aux autres, quoi. C'est un cadeau important, c'est un cadeau qui a un prix. Il n'y a pas de valeur pour ce cadeau-là, quoi. Dieu a donné sa vie, quoi. Hey, sa vie. Ah, gloire à Dieu, quoi. Et aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. J'espère que vous avez une conviction dans votre cœur, malgré tout ce qui se passe dans ce monde pourri, que Dieu va encore sauver des gens, quoi. J'aimerais que vous puissiez entendre ce matin le cri des femmes qui sont battues à l'extérieur. Que vous puissiez entendre le cri des femmes qui sont abusées sexuellement à l'extérieur. Que vous puissiez entendre le cri des prostituées qui sont dans des maisons closes et qui passent un client à un derrière l'autre parce qu'elles confondent l'amour avec le sexe, quoi. Que vous puissiez entendre le cri des prostituées qui sont dans des vitrines. Pourquoi? Parce qu'il y a des oncles, des pères, des frères qui ont abusé d'elles sexuellement quand elles étaient jeunes, quoi. Que vous puissiez entendre ces enfants qui sont abusés aussi par des oncles, des pères, par des étrangers, quoi. Ouais. Quand on lit des écœurantries dans les journaux, des enfants de 6 mois qui sont violés, c'est pas croyable, quoi. Hein? Ouais. Vous pensez que le monde n'a pas besoin d'entendre l'Évangile, frères et sœurs? Ouais. C'est la solution que Dieu a donnée à l'homme, que Dieu a encore pour ce monde, pour que les choses puissent changer, frères et sœurs. Et si vous avez démissionné, si le cadeau que vous avez reçu de Jésus-Christ, vous l'avez en vain, vous le gardez pour vous en vain, ben vous avez démissionné dans votre cœur, quoi. Ben, perdu de vue qu'il est venu nous visiter un jour et qu'il est venu pour vous sauver. Et non pour vous seulement pour vous sauver, mais pour vous utiliser, pour proclamer la grâce de Dieu envers ceux qui sont perdus. Et ce matin, frères et sœurs, je dirais pas qu'il y en a qui sont venus pour rien, mais ce matin, mon message s'adresse particulièrement à ceux qui se sont refroidis, qui ont délaissé le Seigneur. Et peut-être qu'il y en a dans cette salle ce matin. Peut-être qu'il y en a que la température a baissé, peut-être qu'il y en a que ce sont des chrétiens qui se cherchent ce matin. Ça arrive, ça. Il y a des gens du monde qui se cherchent, il y a des chrétiens qui ont perdu de vue leur premier amour, qui ont abandonné leur premier amour et qui se cherchent aussi. Et lorsque Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, eh bien, il parle de ceux dont l'amour pour Dieu a diminué au point où ils ne ressentent plus rien pour lui parce qu'ils ont oublié tout ce qu'il a fait pour eux. Et comme Paul le dit ici dans la première partie du verset 2, si vous avez déjà un jour pensé croire en Jésus, c'est maintenant le moment parce que c'est le moment favorable. Et vous pouvez être certain que Dieu va venir à votre secours. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Marianne, à la réunion de prière, elle nous a raconté qu'une infirmière de 36 ans la semaine dernière, Marianne, il y a 2 semaines peut-être, qui travaille au CHU et qui travaille aussi comme indépendante. 36 ans, un enfant. Paf, face à face, elle est décédée, quoi. Ah, il n'y a pas de jour pour mourir, hein. Il n'y a pas de jour pour mourir, mais le Seigneur nous rappelle, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il n'y a pas de jour qu'on doit choisir pour annoncer la parole de Dieu. Quand l'occasion se présente, si notre vie est en règle avec Dieu, on peut être certain que Dieu va bénir notre parole, quoi. Le plus dur, c'est pas tellement de témoigner, le plus dur, c'est de rester en règle avec le Seigneur, quoi. C'est de marcher dans les voies du Seigneur pour que nous ne soyons pas nous-mêmes un obstacle, pour que la grâce de Dieu puisse travailler dans le cœur des gens, quoi. Amen. Jésus nous a averti d'avance qu'il viendrait un temps où le mal se répandra à un tel point que l'amour d'un grand nombre de chrétiens se refroidira et qu'ils se détourneront de lui. Matthieu 24, 12. C'est-à-dire qu'il viendra un temps où plusieurs parmi ceux qui auront souffert à cause de lui abandonneront la foi pour retourner à leur ancienne vie parce qu'ils ne supporteront plus de souffrir pour son nom. Matthieu 24, les versets 6 et 8. Et Jésus dit que ce temps correspond à une période où la méchanceté se sera répandue sur la terre, que ce sera comme les premières douleurs de l'accouchement. Sommes-nous au commencement de ces douleurs de l'accouchement à laquelle Jésus faisait référence à son époque? Frères et sœurs, même des personnalités de renommée internationale sont d'accord pour dire que nous vivons des temps de méchanceté difficiles à imaginer, marqués par une cupidité incontrôlable, une liberté sexuelle qui n'a rien envie à Sodome et Gomorre, et un nombre toujours grandissant de personnes qui sont dépendantes de toutes sortes de choses, y compris la drogue, la boisson, vous pouvez en mettre, quoi. Vous pouvez en mettre. On a le choix aujourd'hui. Il y a à peu près, il y a quelques mois, suite à tous les scandales financiers qu'il y a eu dans les journaux et qui ont été diffusés aussi à la télévision, il y a un journaliste qui a rencontré un spécialiste de la finance. Je vais vous dire un peu ce que j'ai retenu. Alors, la question qu'il lui a posée, il dit, que peut-on faire pour empêcher des politiciens, des directeurs de banque et des spéculateurs de se remplir les poches? Ça, c'était la question. Il a répondu, cet expert dans le milieu des finances, il a répondu que le problème, eh bien, ce n'était pas de renforcer les protections puisque tout était là pour empêcher les abus. C'est spécial, hein? Et là, je ne vous parle pas d'un chrétien qui a dit ça. Regardez ce qu'il a ajouté. Il dit, tout était mis en place pour empêcher que des gens abusent. Il dit, vous pouvez mettre le système que vous voulez. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus de morale. Moi, j'ai dit, ça vient de la bouche d'un non-chrétien, ça. Et lui, il a compris des choses que nous, on a discuté encore à saisir, que si le monde va mal, c'est parce qu'ils ont abandonné Dieu, quoi. Ils n'ont plus de morale. Et c'est vrai, hein? Établissez la loi que vous voulez. Je me suis mis à réfléchir à ça. Tu peux mettre la loi que tu veux, les bannir ce que tu veux. Quand l'homme n'a plus de morale, non? Eh bien, son cœur, qui est tortueux par-dessus tout, ne cherche qu'à contourner le système pour siphonner le système, pour frauder le système, quoi. Quand il n'y a plus de morale, c'est ce qui arrive. Si vous avez déjà réellement aimé et suivi Jésus, que vous vous êtes refroidi, que vous êtes devenu indifférent à tout ce qu'il a fait pour vous, Dieu s'adresse particulièrement à vous ce matin. Il vous invite à vous approcher de son trône où se trouve la grâce pour y recevoir le pardon. Vous êtes amen à ça ce matin? Vous avez deux choix ce matin. Vous avez deux choix. Soit vous écoutez la parole, elle vous rentre par ici, elle sort par là, ou soit vous dites, Seigneur, moi ce matin, il n'y a personne qui connaît ma vie. Il y a juste toi qui la connais. Je suis convaincu d'une chose, je ne peux pas te cacher ma vie. Tu connais ce qui va, tu sais ce qui va pas, Seigneur. Ouvre les oreilles de mon cœur, Seigneur, parce que j'aimerais revivre ce que j'ai vécu avec toi au début de ma conversion. Et si vous n'êtes pas converti ce matin, Dieu vous offre cette opportunité aussi. Seigneur, moi, je te connais pas. Je viens à l'Église, je suis un enfant de l'Église. J'ai baigné à l'école du dimanche, j'ai fait le groupe de jeunes. J'ai délaissé l'Église. Je te connais pas, mais ce matin, j'aimerais te rencontrer d'une manière toute particulière, Seigneur. Je voudrais avoir la joie de ton salut dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Peut-être que vous vous dites en vous-même, je peux me permettre de ne pas être en règle. Ouais, je dirais plus que ça. Je peux me permettre de me mettre en règle avec Dieu à n'importe quel moment, mais je suis pas encore prêt. Je ne suis pas en colère contre Dieu. J'ai seulement besoin de passer du temps pour m'amuser avec mes amis. Je sais que Dieu est bon et qu'il m'aime, et quand je serai prêt, je reviendrai vers lui, et je sais quand ce sera le temps de faire ce pas. J'ai déjà entendu ces paroles, frères et sœurs, me prononcées dans le passé par des jeunes qui sont rendus maintenant à un point où il est très difficile de les ramener à l'Église. Quoi. Très difficile. Parce que pour eux, le temps de s'amuser ne finira jamais. Quoi. C'est triste. Surtout quand on voit des gens qui ont entendu l'Évangile depuis tout petit. Quoi. Qui ont entendu l'Évangile depuis qu'ils étaient tout petits. Dans sa parole, Dieu nous montre le danger que court celui qui se refroidit. C'est pas que Dieu se détourne de ceux qui se refroidissent ou qui l'abandonnent. Ou qu'il les abandonne parce que sa grâce est toujours disponible pour leur pardonner, ni que le sang de Christ envers les pécheurs perd sa puissance, mais que l'effet qui se répercute dans la vie de celui qui se refroidit ou qui abandonne le Seigneur est manifeste et prévisible. Votre cœur s'endurcit au point où vous vous trouvez dans un état d'esprit où non seulement la parole de Dieu ne produit plus son effet dans votre cœur, mais vous vous éloignez de ceux qui suivent l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est vrai, hein? On vit une vie qui est plus ou moins, on sait, en règle avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on vient à l'Église. On n'a pas le goût de venir à l'Église parce qu'on se fait rappeler constamment qu'on doit marcher dans les voies du Seigneur. Et on commence à délaisser l'Église. Et après, on rencontre des frères et sœurs qui nous rappellent que, bon, on commence à nous voir de moins en moins souvent. Et ça nous rappelle qu'on devrait peut-être se mettre en règle avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on fait? On a d'abord délaissé l'Église. Ensuite, on délaisse les frères et sœurs. Et finalement, eh bien, on vit comme les gens du monde en sachant que, on vit comme les gens du monde trop souvent en sachant que la vérité, on sait où se trouve la vérité parce qu'on l'a entendue pendant tellement d'années. Si vous êtes refroidi ce matin, si vous avez délaissé, abandonné le Seigneur, aujourd'hui, c'est encore le jour du salut pour tous et chacun. Le Seigneur veut, c'est un berger, il veut ramener ses brebis dans son enclos. Il sait qui lui appartient. Et si vous ne lui appartenez pas ce matin, eh bien, Dieu veut faire en sorte d'en rajouter un grand nombre parmi son troupeau. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne cet avertissement dans Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez y aller. Prenez garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur si mauvais, si incrédule, qu'il se détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'aujourd'hui de l'Écriture s'applique à nous, afin qu'aucun de vous ne se laisse tromper par le péché et ne refuse de comprendre. L'exhortation qui nous est donnée ici s'applique encore aujourd'hui. C'est pourquoi, comme l'affirme le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre comme lorsque vous êtes révolté contre lui, pardon, comme le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. Tenez donc fermement à la foi que vous proclamez. Et tenez fermement notre foi, elle est capitale, parce que le péché qui endurcit le plus le cœur, c'est l'incrédulité. Les Israélites avaient endurci leur cœur quand ils se sont révoltés contre Dieu dans le désert, et cela est arrivé au moment où ils traversaient un temps d'épreuve. Et pendant cette période difficile où ils se trouvaient dans le désert, ils avaient l'impression que Dieu n'avait pas tenu ses promesses, et lorsqu'ils pensaient que le Seigneur n'entendait plus leurs cris, eh bien, ils se sont révoltés contre lui. Et certains chrétiens de notre génération ont vécu des choses semblables dans leur vie. Ce sont pourtant des gens qui ont marché autrefois avec le Seigneur, qui ont cru en sa parole, qui avaient décidé de vivre en fonction des enseignements des enseignements de la parole de Dieu et qui étaient zélés pour parler de Jésus. Puis ils ont traversé un moment difficile dans leur vie et ils ont fait connaître leurs besoins à Dieu, mais ils n'ont pas reçu de réponse à leur prière au moment où ils l'auraient souhaité. Alors leur cœur s'est rempli de colère contre Dieu. Ils l'ont accusé de les avoir abandonnés, et aujourd'hui, ces gens ne veulent plus entendre un seul mot de Dieu. D'autres ont recommencé à fréquenter des gens peu recommandables, ils se sont éloignés de Dieu, et pourtant, la grâce de Dieu est toujours disponible pour eux. Il est toujours prêt à leur pardonner, malheureusement avec le temps, les plaisirs que leur procure le péché endurcit leur cœur. Et dans ces moments d'incertitude, eh bien, le Seigneur nous dit dans Hébreux, eh bien, prenez garde afin que notre cœur ne s'endurcisse pas et que nous nous détournions de Dieu lorsque nous passons par des épreuves dans nos vies. Le titre de mon message ce matin, c'est « Il est temps de se mettre en règle avec Dieu ». Il est temps de se mettre en règle avec Dieu pour une raison. La première, c'est parce que notre génération a perdu de vue la crainte de Dieu. Il est temps de se mettre en règle avec Dieu parce que l'Église de Jésus-Christ a perdu de vue la crainte de Dieu. On n'a pas besoin de regarder dans le monde ce qui se passe dans le monde comme péché. On a juste acheté un coup d'œil dans l'Église et on s'aperçoit que les mêmes péchés que le monde vit, on les retrouve dans l'Église. Je ne demanderai pas de dire « Amen » à ça ce matin. Moi, je suis pasteur, je sais ce qui se passe. Et sincèrement, l'Église a besoin de tout un réveil. De tout un réveil. Quand les mêmes péchés se trouvent dans l'Église que dans le monde et qu'on ne les voit pas, c'est parce que les chrétiens sont plus hypocrites que les gens du monde. Ils ne veulent pas montrer qu'ils pêchent parce qu'ils ont peur d'être jugés. La différence avec le monde, les gens n'en ont rien à cirer d'être jugés. Ils ne sont pas gênés de vivre dans le péché. Et dans l'Église, on sait que ce n'est pas normal de vivre dans le péché. Alors certains vivent dans le péché, commettent les mêmes péchés que ceux du monde, ils sont tellement gênés que les gens le sachent, de peur d'être jugés. Ils préfèrent rester malheureux, ils préfèrent le garder pour eux plutôt que de se confier à quelqu'un et d'aller chercher la délivrance qui se trouve en Jésus-Christ. Tous les péchés que vous pouvez imaginer se trouvent dans l'Église, frères et sœurs. Tous les péchés que vous pouvez imaginer. Il est temps de se mettre en règle avec Dieu parce que la présente génération a perdu de vue la crainte de Dieu. L'Écriture nous parle constamment de la crainte de Dieu. Proverbes chapitre 3, verset 7. Ceux qui ont fait l'étude sur les Proverbes l'année passée, vous allez vous en souvenir. Crains le Seigneur et détourne-toi du Seigneur. Et détourne-toi du péché. Parce que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. La haine du mal. Frères et sœurs, on nous dit que Dieu est amour et que Dieu nous demande d'aimer, que c'est ce qui a déversé dans notre cœur, l'amour. Il y a une seule chose que le Seigneur nous demande de détester, quoi. Et la seule chose que le Seigneur nous demande de détester, bien, on trouve le moyen de l'aimer, quoi. Et c'est le péché. Hey, je viens de le lire, hein. Proverbe 8, 13. Parce que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Et celui qui craint le Seigneur, il déteste le péché. Hey, vous avez le droit de détester. C'est-tu bon, ça, hein? C'est bon, hein? Hey! Je pensais pas qu'en tant que chrétien, je pouvais haïr. Oui! Le Seigneur, il veut que vous détestiez le péché comme lui le déteste. C'est tout un contrat, ça, hein? Parce que si on pouvait, le Seigneur est grand et sa grandeur nous échappe, hein? Mais si on pouvait regarder simplement dire, Seigneur, donne-moi une vision de jusqu'à quel point tu détestes le péché pour que je puisse le détester comme toi, on serait foudroyé, quoi. On serait foudroyé, quoi. Et heureusement qu'à chaque fois qu'on commet un péché, le Seigneur, il agit pas en nous à travers la haine qu'il éprouve pour le péché, qu'on s'est foudroyé, quoi. Heureusement que la grâce de Dieu est abondante, que la grâce de Dieu est encore là pour nous tendre la main. Elle est toujours là, la main. Dire, hey, accroche, accroche, accroche. Je veux qu'on continue à faire un bout de chemin ensemble. Je te juge pas en fonction de ton péché. Reviens à la croix. Encore suffisant pour te pardonner. Abuse pas de ma grâce. Pour que ça devienne de la disgrâce. Hey, combien le Seigneur nous aime, frères et sœurs. Combien l'Église a besoin de retrouver cette crainte de Dieu. Par la bonté et la fidélité, on peut réparer le mal qu'on a fait, mais en ayant la crainte du Seigneur, on se détourne du mal. Le pasteur David Wilkerson, qui connaît le pasteur David Wilkerson? Vous l'avez connu, il est décédé, ça va faire un an au mois d'avril, mais le pasteur David Wilkerson raconte qu'il y a plusieurs années, il avait été invité à parler devant des étudiants à l'Université de Yale aux États-Unis. Aussitôt arrivé, on l'avertit qu'un groupe de manifestants se trouvait dans l'assistance, prêt à l'interrompre à tout moment. Alors qu'ils prenaient place derrière le pupitre, il a pu les apercevoir tenant dans leurs mains des pancartes de contestation, quoi. Hein? Fous le camp, va-t'en, on ne veut pas savoir rien de Dieu, Dieu n'existe pas. Bon, il a vu les pancartes, quoi. Et mon message ce soir-là, dit-il, fut le suivant. Moi, je ne sais pas si je pourrais mettre ce titre-là ici un jour, mais ben, lui, il a eu le culot de le faire. À quoi ressemble l'enfer et qui va s'y retrouver un jour? Bonne introduction, quoi. Hein? Alors, il dit, j'ai prêché exactement ce que Jésus a dit sur l'enfer. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Et là, il dit, j'ai dit, c'est une fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et pendant que je parlais, il y a eu un grand silence. Il y a eu un silence total dans l'assistance. Une conviction profonde de la réalité de l'enfer grandissait dans le cœur des gens. Par la suite, tout le monde est sorti muet de stupeur de la salle. Il dit, je n'oublierai jamais, jamais de ma vie cette réunion. Il y avait une véritable crainte de Dieu dans cette salle, une crainte respectueuse, même parmi ceux qui résistaient le plus à l'Évangile. Il dit, alors que je traversais le hall, certains des manifestants étaient toujours là avec leurs pancartes. Lorsqu'ils me virent, ils prirent un autre corridor. Ils étaient incapables d'expliquer cette simple présence de Dieu qu'ils avaient ressentie durant cette soirée. Malheureusement, ce temps où les gens craignaient Dieu appartient au passé. Aujourd'hui, Satan a répandu un évangile facile et avantageux. Et le message de l'évangile aujourd'hui, facile et avantageux, là, c'est qui va accepter Jésus? Levez votre main, quoi. Levez votre main. Moi, je suis convaincu d'une chose, hein. Le diable, il doit lever la main tous les jours, hein. Tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire, lever la main pour accepter Jésus? Mais ça veut rien dire, quoi. À l'étude biblique, mercredi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, un bon mercredi, bon, j'espère qu'ils vont continuer à venir, même si je leur ai dit ça. Un bon mercredi, je vais vous distribuer une feuille et je vais vous demander de me donner la réponse, qu'est-ce que c'est pour vous recevoir Jésus-Christ? Honnêtement, là où vous êtes assis, donnez pas de réponse à haute voix. Qu'est-ce que ça signifie pour vous recevoir Jésus-Christ? Lever la main et dire, qui veut accepter Jésus, ça ne veut rien dire. Rien dire. Recevoir Jésus-Christ. Vous retournez, Régine, ou? Okay. Ça ne veut rien dire, quoi. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 7, rapidement, parce que on est braqué là-dessus, nous, depuis des semaines, mercredi soir. Rapidement. Bon, je vous donnerai pas le cours d'études bibliques du mercredi, mais je vais vous juste montrer la différence entre lever la main pour Jésus, un appel à la repentance. Ernest, il est où Ernest Fuderski, là? Moi, je m'achète des ventilateurs portatifs, me mettre en dessous des bras, puis ah, que ça carbure en avant, quoi. À partir du verset 6, verset 6 et 7. Frères et sœurs, vous qui êtes dans l'Église de Jésus-Christ depuis des années, je vais vous poser une question. Vous avez accepté Jésus? Qui a accepté Jésus ici? Levez la main. Ah, ça va? Bon, je me sens pas tout seul. C'est bien. Qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est bien. Qui a vraiment la certitude maintenant dans son cœur qu'il s'est réellement repenti quand il a reçu Jésus-Christ? Ouais. Si vous vous êtes pas vraiment repenti, vous n'êtes pas converti, frères et sœurs. Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous. » pour que vos péchés soient effacés. Petite équation mathématique. Repentance, 1, plus conversion, 2. 1 plus 1, 2, égale nouvelle naissance. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti n'est pas converti, n'est pas sauvé. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 6. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu afin de recevoir de notre part aucun dommage. Et regardez le verset qui frappe maintenant, le verset 7. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Deux repentances, c'est le 10, merci. Deux repentances ici. Une qui produit une tristesse selon Dieu, qui conduit à la vie, et une qui produit la tristesse selon le monde et qui conduit à la mort. Frères et sœurs, quelle sorte de repentance que vous avez reçue, que vous avez donnée, que vous avez acceptée quand vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? La vraie repentance, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. On ne devrait jamais dire qu'un gars est rétrograde, jamais, jamais, jamais. Quand on dit qu'un chrétien est rétrograde, c'est qu'il n'a jamais été sauvé. Puisque si sa repentance est selon Dieu, qu'il s'est vraiment converti, il a fait une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Pas moi qui le dis, c'est Paul. Vous voulez me traiter d'hérétique? Traiter Paul d'hérétique, c'est ce qu'il dit ici. Ah, il est retourné dans le monde, lui, il est rétrograde. Putain. Hey, ouais, non. C'est la première repentance qu'a vécue celle du monde. Vous savez pourquoi il s'est converti? Parce qu'il avait peur d'aller en enfer. Vous savez pourquoi il a accepté Jésus? Parce qu'on lui a demandé de lever la main. Mais il n'est pas sauvé, il ne s'est jamais repenti. Il ne s'est jamais repenti. Et vous savez ce que ça fait sur un salut à bon marché? Ça fait que notre Église, plutôt qu'être remplie de personnes qui sont nées de nouveau, qui ont vécu ce miracle de la nouvelle naissance, eh bien, ce sont des gens qui sont devenus religieux, qui viennent à l'Église le dimanche matin, et qui font exactement ce que les catholiques font. Hein. Mon père, quand il était catholique, vous savez ce qu'il faisait? J'étais tout petit, il m'entraînait à venir à l'Église le dimanche. Ce que plusieurs font avec leurs enfants le dimanche matin. On les entraîne. Allez, on est catholiques, on doit aller à l'église. Mon père, il dormait, il travaillait de nuit, il venait de finir de travailler à 8h, il venait à la grand-messe de 9h, je le voyais dormir de 9h à 10h30, quoi. Il était crevé, quoi. Mais c'était important que son fils soit là, quoi. Il me montrait l'exemple. Je devais être à l'église à tous les dimanches, quoi. Et là, il me disait, regarde les lumières du confessionnal, ils sont tous allumés, choisis-en un, va te confesser pour pouvoir prendre la communion, quoi. Et j'avais tellement de péchés, moi, c'était tellement gêné de les dire. J'avais raconté n'importe quoi au prêtre dans le confessionnal, que le dernier péché, je disais, mon père, je m'accuse d'avoir raconté des mensonges. Et là, il me donnait la bénédiction. Et là, j'étais en paix. J'avais la conscience en paix, et j'allais prendre, et je prenais la communion, quoi. Frères et sœurs, la religion évangélique, je le répète, ça existe. On amène nos enfants à l'église. On voit le fils du voisin qui se fait baptiser. Il a 15 ans. On donne un coup de coude à nos enfants, on dit, hey, as-tu vu? Il va se faire baptiser avant toi, ce sera peut-être le temps. Sans penser aucunement si nos enfants sont sauvés, quoi. On pratique une religion. La religion, c'est les apparences. Qu'est-ce que les gens vont dire si tu ne te fais pas baptiser avant l'autre? La religion évangélique, ça existe, frères et sœurs. Et malheureusement, je dois le dire, il y a des gens dans nos milieux évangéliques qui font comme dans les églises catholiques, qui viennent à l'église le dimanche matin, quoi. Pour être bien vus des gens. Ils n'en ont rien à cirer du message. S'ils pouvaient dormir sans être vus, ils le feraient comme mon père le faisait. Nous, c'était une grande église catholique, il y avait plus de 1200 personnes, il était le dernier, lui. D'ailleurs, les pauvres, hein, ça marchait par classe sociale, les riches en avant, ils payaient leur banc, et puis ça diminuait comme ça. Mais vu qu'on était des familles d'ouvriers, on était dans le dernier banc, sinon dans le jubé, quoi, hein. C'est tout ce qu'on pouvait hériter, nous autres, dans l'Église catholique. Est-ce que je suis en train de devenir fou si c'est vrai ce que je dis, quoi? Je suis pas en train de vous juger, je veux simplement que vous fassiez un examen de conscience ce matin. Parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis votre pasteur, et la Bible me dit que je vais devoir répondre doublement de l'enseignement que je vous donne, quoi. Doublement. Et moi, je veux pas arriver au ciel, puis que le Seigneur me donne des baffes, me dire, écoute, tu devais dire ça cette journée-là, tu t'es fermé pour pas que les gens te jugent, pour que tu te fasses aimer des gens. Lui, maintenant, il s'en va en enfer, un autre s'en va en enfer, parce que tu n'as pas voulu t'ouvrir la bouche, quoi. Moi, je veux pas entendre ça de la bouche du Seigneur, quoi. Moi, je suis pas ici me faire aimer de vous, quoi. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce que le Seigneur pense de moi, quoi. Pour moi, le pastorat, c'est pas une job, c'est pas une profession. Moi, je prendrai jamais ma pension, ça va me tuer prendre ma pension. Pastorat, c'est un appel. Je ne prendrai jamais ma pension. Mais la vie chrétienne, c'est aussi un appel. Quoi. Et j'espère que vous n'avez pas déjà pris votre pension dans votre vie chrétienne. Que vous continuez à œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Faisez ça, la vie, l'Église évangélique est devenue dans beaucoup d'endroits une religion. Quoi. Une religion. Il y a des gens qui prennent la Sainte-Seine qui sont même pas corrects. Ils l'apprennent parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Il y a des gens qui vivent une vie de péché. Et qu'est-ce qu'ils font comme à l'Église catholique? Avant de prendre la Sainte-Seine, ils confessent. Ah, Seigneur, je ne te donnerai pas toute la liste, hein, tu connais, hein. Prends, prends ça. Je prends la Sainte-Seine. La religion évangélique, quoi. Le regard des autres. Mais jamais le regard de Dieu. Vous savez, c'est quoi ça? Ça, c'est la repentance selon le monde, ça. Et Paul est clair, ça, cette repentance-là, elle conduit en enfer parce que vous n'êtes pas converti, quoi. Parce que vous n'avez jamais passé par la véritable repentance, quoi. Jésus nous a fait mal avec trois paraboles, hein. Trois paraboles, il nous fait très mal, hein. Quelqu'un a prié ce matin, un serait dans son lit, il serait enlevé, l'autre ne le serait pas. Un sera dans le champ, l'autre, un sera pris, l'autre ne le sera pas. Les 10 vierges, ils avaient 10, les 10 avaient de l'huile, hein, les 10. 5 sont entrés, 5, Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Vous savez ce que le Seigneur est en train de nous passer comme message? Il y a 50% minimum des gens dans l'Église qui sont pas sauvés, quoi. Moi, je vous le dis, j'ai vraiment la conscience tranquille ce matin à vous le dire, quoi. Ça, le 50-50 des trois paraboles, là, c'est ce qu'il laisse supposer, quoi. Les deux qui sont dans le champ, là, ils sont habillés pareil, hein, travaillent de la même façon, hein. Les deux qui sont dans le lit, je pense qu'ils ont chacune une jaquette, hein, ils font la même chose, ils dorment, quoi. Les 10 vierges, elles sont probablement habillées de la même robe blanche qu'elles avaient, hein, au tout début. Ouais. Dans l'Église, on a de l'air tous des chrétiens, hein. Et le Seigneur nous laisse sous-entendre qu'il y a peut-être la moitié qui ne sont pas sauvés. La moitié qui vivent une religion des apparences. Et j'espère que vous ne faites pas partie de ceux-là. La repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Le monde a concocté un évangile dans lequel il n'y a aucun Dieu, et par conséquent, ni ciel ni envers. Il n'y a aucune vie après la mort, il n'y a personne qui peut nous donner des réponses. Ça, c'est le principe du monde. Ça, c'est un évangile où Jésus ne figure pas. Ça, c'est un évangile qui est prêché dans certaines églises. Est-ce que vous savez que certaines églises où on défend aux enfants de prendre leur Bible pour aller à l'école du dimanche? Parce qu'on ne veut plus que les enfants lisent que Dieu a créé le monde, mais que c'est le fruit de l'évolution, ce qu'on vit. Est-ce que vous savez que dans nos soi-disant églises évangéliques, on enseigne la théorie de l'évolution à nos enfants? Et quand ils arrivent à 15-16 ans, on se demande pourquoi est-ce qu'ils quittent l'Église? Ouais, un évangile où Jésus ne figure pas. Vous en entendez parler, mais finalement, c'est un autre Jésus, plutôt tolérant, qui est présenté comme étant à la base de l'amour humain. Vous le retrouvez dans toutes les religions. Il consent à ce que les personnes qui ont le même sexe se marient ensemble, et il déclare qu'il n'y a aucune chose comme telle qui est bonne ou mauvaise. Dans cette nouvelle évangile, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon, quoi. Tout est bon, quoi. Il n'y a rien de mauvais, tout est bon, quoi. Il y a plus de gens qui pêchent avec ce Jésus. Il y a plus de gens qui pêchent avec ce Jésus, pardon. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent se tromper, mais ils ne commettent jamais de péché. Vous n'avez donc pas besoin de changer parce qu'il n'y a rien de mauvais en vous, simplement des correctifs à apporter. Voilà pourquoi on ne parle jamais de péché, ni même d'enfer dans cet évangile. Finalement, Jésus vous aime tellement dans cet évangile qu'il ne peut se mettre en colère contre vous et encore moins vous juger. Paul appelle cela Galates chapitre 1, verset 6. Pas mes paroles, les paroles de l'apôtre Paul. Galates chapitre 1, verset 6 et 7. Vous savez ce qui m'a béni quand Daniel Julien est venu? Il est venu nous trouver. Moi, il m'a raconté tout son passé homosexuel. Hein. Alors que dans certaines de nos églises, on accepte des pasteurs homosexuels. Alors que dans certaines de nos églises, on est prêt à dire que l'homosexualité, c'est quelque chose de normal. Vous vous souvenez du dimanche matin qu'il a prêché ici, qu'il a amené tous ces versets? Il baignait dans l'homosexualité. Lui. Il baignait dans la débauche à ce niveau-là. Et Dieu l'a délivré, quoi. Et je me souviens au boulevard, au parc d'Avoie, La Beauvrie, merci. Quand on a évangélisé les gens, il y a un homosexuel qui est venu nous trouver, à vélo, qui nous a dit qu'il était né comme ça. Daniel est allé le trouver. Il dit non, personne qui vit au monde homosexuel. On le devient à cause des circonstances de la vie. Il dit, moi je peux te parler parce que moi je suis une nation homosexuelle. Moi j'ai été délivré par la grâce de Dieu. Et tu peux être délivré aussi par la grâce de Dieu. C'est bien plus facile dans nos églises de dire que c'est normal que de dire, écoute, la délivrance existe encore pour toi. Tu peux être délivré. Et souvent, ceux qui sont homosexuels, c'est quoi le problème d'une mère trop autoritaire, un père qui a démissionné? Ça peut être aussi causé par des abus jeunes. Mais il n'y a personne qui vient au monde homosexuel est en train de dire que Dieu a des choix, fait du favoritisme, quoi. Vous vous rappelez de fermer votre GSM? Galates chapitre 1, versets 6 et 7, Paul appelle cela un autre évangile. Et il nous avertit que ceux qui le prêchent altèrent l'évangile de Christ. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un évangile séduisant et attirant pour un grand nombre de gens, particulièrement parmi les jeunes. Même certaines églises évangéliques adoptent cet évangile séduisant. Tout cela arrive juste comme Paul l'avait dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le monde peut mettre de côté la Bible et rejeter le vrai Jésus, le Fils de Dieu. Il peut aussi nier qu'il y a un ciel et un enfer. Il y aura toujours des gens pour dire que Jésus n'est pas ressuscité et que nous ne le serons pas nous aussi, par la puissance de Dieu. Mais Jésus a quand même dit qu'après la mort viendra un jour où tous les hommes seront jugés. Il a clairement mentionné que l'enfer est une réalité, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Même si certains affirment que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a pas d'enfer ni de jugement dernier, cela n'empêche pas que ces choses puissent quand même exister. Quelle terreur inimaginable cela doit être de se réveiller dans l'éternité et découvrir que toutes ces choses sont vraies. Moi, je vous invite, on l'a lu, je pense, mercredi, je vous invite juste à lire Luc chapitre 16, quoi. Le pauvre riche n'est même pas en enfer, il est dans le séjour des morts, quoi. Terrible, quoi. Et nous, chrétiens, on a perdu ça de vue, quoi que ça existe. Et il demande, il souffre tellement dans le séjour des morts, il est en attente, lui, là, en attente du jugement avant d'être lancé en enfer. Et il dit, envoyez quelqu'un avertir mes frères qui ne viennent pas ici, on souffre terriblement dans ce lieu. Il est juste dans le séjour des morts, là, il est en attente. Et on voudrait qu'on ne le dise pas du haut de la chair, quoi. On voudrait qu'on n'en parle pas de ça, quoi. Non. Parle-nous de Jésus qui nous aime, là. Fais-nous un gros cœur rose au-dessus de la croix, quoi. Parle-nous que Jésus est amour, qui nous aime, qui nous en veut pas, quoi. Qu'on peut vivre la vie qu'on veut. Il est toujours prêt à nous pardonner, quoi. Oui. Tu vois, jusqu'à preuve du contraire, quand Jésus était crucifié, moi, il n'y avait pas un nez rouge, il n'y avait pas le visage d'un bouffon, quoi. Il était défiguré. Il a souffert pour chacun de nous, frères et sœurs. Il a payé un prix incroyable pour qu'on puisse avoir la vie. Une nouvelle vie qu'on puisse espérer vivre ensemble dans le royaume de Dieu. Malheureusement, l'Évangile est falsifié aujourd'hui, quoi. C'est maintenant le temps, je termine avec ça, c'est maintenant le temps de se mettre en règle avec Dieu parce que Jésus revient bientôt. Je suis content que quelqu'un l'a dit tantôt dans son message, dans sa prière, Jésus revient bientôt. Vous savez que je vais prêcher dans des églises, on me défend de parler du retour de Jésus. Je vais vous donner, vous savez la raison qu'il me donne? Non, on ne parle pas du retour de Jésus parce que ça traumatise nos membres. Et ça vous prépare votre message, hein? Ouais. Je nommerai pas le nom des églises, mais ça vous donne une idée quel genre de vie chrétienne que les gens vivent si on peur qu'on parle du retour de Jésus, quoi. Qu'on le rappelle. Et moi, là, ça serait ma joie qu'ils reviennent le plus vite possible, quoi. Le plus vite possible qu'ils viennent me chercher. Pour mettre fin à toute cette misère, quoi. J'espère que c'est votre espérance aussi à vous, quoi. Et Dieu, dans chaque génération, nous a laissé des signes aux chrétiens que Jésus reviendrait, quoi. Mais on peut dire aujourd'hui que Jésus est plus proche maintenant qu'il était il y a 100 ans, quoi. Et qu'il était hier, quoi. Tous ceux qui croient en Jésus savent dans leur cœur que le temps est proche. Parce que Christ en a parlé. Il est vrai que personne ne sait exactement l'heure de son retour et Jésus lui-même ne le savait pas. Cependant, il a décrit clairement ce qui allait se passer juste avant son retour. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Luc chapitre 21, versets 8 et 9. Tiens, tournez avec moi. Luc chapitre 21, versets 8 et 9. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Versets 10, 11 et 27. Une nation s'élèvera comme une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand verrons-nous ces choses arriver? Jésus dit qu'elles surviendront, Luc 21, verset 26, quand des hommes mourront de frayeur en pensant ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et certains théologiens affirment que ce passage fait référence à la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais cela n'est pas possible parce qu'à cette époque, personne n'a vu Jésus arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et beaucoup de gloire. La vérité, c'est que dans ce passage, ou que ce passage est un des signes les plus sûrs qui confirme que Jésus revient bientôt. Pensez à la secousse qui a pris place dans le cœur des gens aujourd'hui. Le monde est secoué au point de vue économique, au point de vue moral, subissant des désastres naturels, le terrorisme et la menace nucléaire provenant de pays non alignés. Et quel est l'effet de cette secousse mondiale? Les gens ont peur comme jamais. N'est-il pas étonnant que nous n'entendions plus prêcher sur le retour de Jésus aujourd'hui? Certains prêchent qu'il reviendra, mais pas à notre époque. D'autres prêchent que l'Église doit d'abord régner sur le monde et cela va prendre des milliers d'années. Ça veut dire que Jésus, ça va encore des milliers d'années avant qu'il revienne. Ça, c'est plutôt le mouvement évangélique tendance américaine, quoi. Hein? L'Église qui doit dominer sur le monde avant que Christ revienne. Jésus nous a avertis concernant ce genre de réflexion. Matthieu 28, 48, quoi. Si ce serviteur est mauvais, il se dira en lui-même, mon maître tarde à venir. C'est pas long, c'est court, ça veut tout dire. Hein? Si mon serviteur est mauvais, si ce serviteur est mauvais, il dira, mon maître tarde à venir. Ça veut dire quoi? Eh bien, il va en profiter. Sa conscience est endormie, puis il va en profiter à continuer à mener la vie qu'il devrait mener. Il devrait mener quoi? Parce que le retour de Jésus, pour lui, c'est... Il ne viendra pas dans ma génération. Il l'envoie. Quant à Paul, cette attente prochaine du retour de Christ devait nous amener à être encore plus zélés pour accomplir l'œuvre du Seigneur, puisque nous savons que le travail que nous réalisons dans l'union avec le Seigneur n'est pas inutile. Luc chapitre 12, versets 35, 38 et 40. Jésus nous l'a dit clairement. Luc chapitre 12, 35, 38 à 40. Et 40. Soyez prêts à agir en ayant votre ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Vous avez ça, vos lampes allumées? Qui a ça? C'est marqué « lampes allumées »? Merci. OK. Frères et sœurs, les lampes allumées, je vous donne un tuyau. Les 10 vierges. 5 qui avaient de l'huile et 5 qui n'en avaient pas. Ouais. Paul nous dit « gardez vos lampes allumées. Soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir. » Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne le pensez pas. Et je termine, c'est la deuxième fois que je le dis, je termine. Il y a plusieurs années de cela, dans le cadre d'un projet d'évangélisation, le pasteur David Wilkerson s'est retrouvé face à face avec le méchant groupe des Mormons à Brooklyn. Alors qu'il parlait de Jésus à ses jeunes cœurs endurcis, le chef de la bande qui s'appelait Nicky Cruz commença à le menacer. Le premier message que le pasteur Wilkinson adressa à Nicky Cruz fut ces trois mots. « Nicky, Jésus t'aime. » Il est prêt à accorder son pardon, sa pitié et la guérison à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui viennent à lui par la foi. Mais il lança une deuxième invitation à Nicky Cruz et à sa bande. Et cet appel va venir plus tard lors d'une réunion où plusieurs bandes de jeunes criminels s'étaient rassemblées dans une salle de cinéma suite à l'invitation du pasteur Wilkerson. Voici ce qu'il leur dit à la fin de la soirée. Vous venez d'entendre l'Évangile et vous savez maintenant que Jésus vous aime, mais vous devez également savoir que vous pouvez voir vos vies être complètement transformées. Je vous demande donc de vous lever maintenant. Je vous invite à venir en avant et de vous en remettre entièrement entre les mains de Jésus. Je vous invite à vous repentir de vos péchés et de changer, d'abandonner votre ancienne vie. Ce fut le commencement d'un changement de vie dans le cœur d'un grand nombre de jeunes ce jour-là, qui se poursuit encore aujourd'hui, dit-il. Frères et sœurs, le baptême de repentance de Jean Baptiste, vous l'avez lu? parce qu'on est en train de parler de la repentance de Charles Finet. Vous savez pourquoi les pharisiens ne descendaient pas dans l'eau quand Jean-Baptiste faisait le baptême de repentance? Tous les gens étaient autour du lac, ils entendaient prêcher Jean-Baptiste. Et celui qui voulait se faire baptiser, le baptême de repentance, c'est qu'il n'était pas dans l'eau, il devait confesser ses péchés le plus fort possible pour que tout le monde qui était autour du lac l'entende. Pour que Dieu, à travers sa confession de péché, puisse toucher des gens qui ne réalisaient pas qu'ils avaient les mêmes péchés que lui. Et que ces gens-là qui l'entendaient dresser la liste de ses péchés, eh bien, puissent eux aussi venir dans l'eau, dans la repentance, et confesser leurs péchés à Dieu pour, en fonction du Messie qui était à venir. On me dit que je fais trop d'appels des fois. Charles Finney, vous savez comment il faisait ses appels? Celui qui veut se repentir. Et là, il expliquait vraiment c'était quoi la repentance. Ses messages, ça va, moi, ça dure 45 minutes, une heure. Lui, ça durait 3 heures et demie. Et quand il demandait à quelqu'un de s'avancer en avant pour se repentir, c'était comme le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Les gens devenaient en avant, ils étaient brisés, ils devaient confesser leurs péchés publiquement. On ferait ça aujourd'hui, on me donnerait mon C4, quoi. Ouais. Il n'y a pas un pasteur qui peut oser faire ça dans une église aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, les péchés de l'époque de Jean-Baptiste et de Finney, ça n'existe plus. Et vous savez pourquoi on ne les confesse pas, les péchés? Bourré d'orgueil, notre cœur. Bourré d'orgueil. Et vous savez que le réveil commence par la confession des péchés, quoi. Ouais. Ah, il y a un jeune, je le répète, hein, je l'ai dit il y a un mois. Il y a un jeune lors d'un baptême qui a confessé qu'il était esclave de la pornographie. J'ai vu des hommes qui avaient les yeux gros comme ça. Lui, il a osé le confesser, il est délivré aujourd'hui. Mais ceux qui l'ont entendu, ceux qui n'ont pas osé se lever pour confesser le même péché, êtes-vous délivré, vous, aujourd'hui, de ce péché-là? Et s'il est en train de vous ronger comme un ver. Hey, la repentance, la conversion des péchés, la confession des péchés. Frères et sœurs, quand on est animé d'une repentance dont on ne se repent jamais, on n'a pas besoin de suivre le cours d'évangélisation. Le cœur brûle. Et c'est Dieu qui alimente le feu dans notre cœur. Et on voit les âmes comme Christ les voit. On voit les péchés comme Dieu les voit. Et on veut les sortir des flammes de l'enfer pour les faire rentrer dans le royaume de Dieu. Et les portes toutes grandes ouvertes, quoi. Ouais. Hey, on est rendu qu'on suit des cours sur la prière, quoi. Comment prier? On suit des cours, comment évangéliser, quoi. On va finir par donner des cours comment les gens doivent accepter Jésus-Christ, quoi. On va finir par donner des cours comment ils doivent être certains de rentrer dans le royaume de Dieu, quoi. On est bourré de cours dans nos églises, quoi. Mais le côté pratique, frères et sœurs, le côté pratique, qu'est-ce qu'on vit de façon pratique? Et ce matin, je le dis, je termine, ce que j'ai dit dans mon introduction, si vous êtes refroidi ce matin, si vous avez abandonné le Seigneur, si vous avez délaissé le Seigneur, que ce soit pour un péché ou simplement pour aller dans le monde, eh bien, rappelez-vous que le Seigneur dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, il vous invite encore à venir à lui, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos, de prendre sur vous son joug et de le laisser vous instruire. Car il dit, je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. Fermez vos yeux. Faut pas d'appel ce matin. Fermez vos yeux, simplement par rapport au message que vous avez entendu. Il y a peut-être des gens qui se sont refroidis ici ce matin. Il y a peut-être des gens qui ont délaissé le Seigneur ce matin. Si je suis pas clair dans ce que je viens de dire, je vais le dire dans un autre mot, il y a peut-être des gens qui vivent absolument rien que le Seigneur ce matin. Qui vivent une religion. Une religion évangélique. Là où vous vous trouvez ce matin, je ne ferai pas d'appel, vous pouvez juste lever la main, les yeux sont fermés, les têtes sont penchées. Si vous voulez que je prie pour vous, je vais voir votre visage, je vais voir votre main, je prierai pour vous, je mettrai sur ma liste de prières. Et si vous levez votre main ce matin, c'est simplement pour dire, « Pasteur, je voudrais que tu pries pour moi pour que le feu du début de ma conversion puisse se rallumer dans mon cœur. » Qui veut faire ça, veut que je prie pour lui ce matin? Simplement, merci pour cette main. Merci, merci pour cette main, merci pour cette main, merci. Quelqu'un d'autre? Merci. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre ce matin? Vous levez la main simplement pour dire, « Pasteur, tu pries pour moi, parce que je suis refroidi, parce que je veux que mon cœur bouille comme au début de ma conversion. » Peut-être que dans cette salle ce matin, il y a des gens qui n'ont jamais pris cette décision pour Jésus-Christ. Je vous invite ce matin à prendre cette décision. Dieu veut changer votre vie, Dieu veut transformer votre vie. Dieu veut accomplir un miracle dans votre vie, celui de la nouvelle naissance. Maintenant, je ne vous parlerai pas d'un salut facile. Vous devez d'abord reconnaître que vous êtes pécheur et que vous êtes perdu dans vos péchés. Et que si Dieu venait vous chercher aujourd'hui et vous reprenait la vie, eh bien, vous en êtes dans le séjour des morts en attente d'un jugement dernier. Et si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, c'est que vous voulez vous repentir de vos péchés ce matin. Vous voulez avouer au Seigneur, dire, Seigneur, j'ai désobéi à ta loi, Seigneur, continuellement dans ma vie, j'ai vécu comme si tu n'existais pas, Seigneur. Les choses bonnes que je faisais, c'est parce que j'avais peur de toi, simplement de la peur d'aller en enfer, mais Seigneur, je n'étais pas converti. Et ce matin, je veux me donner à toi, Seigneur. Et je sais que par mes propres œuvres, peu importe la religion que je pratique, jamais je peux entrer au ciel. Et Seigneur, ce matin, je viens au pied de la croix de Jésus-Christ. Et je reconnais dans mon cœur que le sacrifice qu'il a accompli à la croix efface tous mes péchés. Seigneur, je me repens. Je sais que tu acceptes cette repentance parce qu'elle est sincère. C'est une repentance dont on ne se repent jamais. Et en même temps, Seigneur, je veux que tu me transformes parce que je veux changer de vie, je veux vivre maintenant comme toi tu le demandes. S'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin qui a fait cette prière-là pour la première fois, simplement levez votre main, la baissez. Et je prierai pour vous. Amen.